du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Dans notre marmite aujourd'hui, une sauce, elle mijote à petit bouillon depuis ce matin. L'ail, les herbes, est-ce du thym? Ah oui, vous sentez la sauce, la base, le parfum aussi de la sarriette, du pourpier, dans l'assiette, des pâtes toutes simples faites avec cette farine qui régale et nourrit. Vous le savez, juste aller regarder ces pâtes, on le sait, ce plat de côte de bœuf, pas de grand tralala, hein? Pourquoi faire tout ça? Le goût du produit d'abord, c'est un peu votre cuisine. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Antonin Bonnet, cuisinier, chef du restaurant étoilé Kinsou. Le pinson?
Le pinson,
ou le petit oiseau?
Un peu les deux, en fait. C'est le surnom que Lucienne Deleuze me donnait au col du Panédis, à la Borie exactement. Quand j'allais garder les chèvres, je pense j'avais entre 8 et 9 ans. Et j'allais aider, ça me plaisait en fait, on se baladait dans la montagne, etc. Et il m'avait appelé Lou Kinsou. Bon, je pense que je vais être pas très épais à l'époque, et voilà.
On imagine donc, bien.
Le petit pinson.
Le petit pinson. Et donc ce petit pinson, Kinsou, étoilé, est à Paris, c'est rue de l'Abbé Grégoire, dans le 6e arrondissement, pas très très loin de la Tour Eiffel, où se trouve également dans cette rue la boucherie Grégoire, votre boucherie.
Oui, tout à fait.
Un magasin de bonbons pour adultes, ça on va en parler pendant cette émission,
ouais,
évidemment. Le produit, le bon produit, le goût. Cet attachement n'est pas effet de mode, mais bien peut-être effet d'éducation. Racontez-nous un petit peu. Vous avez commencé d'ailleurs la terre, vos jeux d'enfants.
Ben, je pense, ça commence à Lyon avec ma grand-mère, mes tantes, ma maman, mère lyonnaise. C'est le marché tous les dimanches, c'est le marché le mercredi aussi pour se réapprovisionner. C'est au petit déjeuner, on discute de ce qu'on va manger au déjeuner. Au déjeuner, on discute accessoirement de ce qu'on va manger au dîner.
Une famille française.
On est obnubilé par le produit, la qualité des produits, la saisonnalité. Donc tout ça, c'est dès le début, je pense. Et puis très rapidement, mes parents prennent possession d'un mas dans les Cévennes. Et là, c'est le jardin, c'est la relation directe à la terre, à l'environnement, à la saison, au temps. Et il n'y a pas de question qui se pose. Si on veut manger quelque chose, c'est que c'est disponible dans le jardin, tout simplement. Si on veut un lapin, il faut aller au clapier. Si on veut des œufs, on va au poulailler. On a de la chance, ma maman prend au début quelques chèvres, commence à les traire, fait des fromages, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Et donc la vie est quelque part simple. Elle est un peu laborieuse parce qu'elle demande du travail. Mais si on veut une salade de tomates et on va au jardin, on ramasse ça ou ces tomates, ces quelques feuilles de basilic, éventuellement un fromage frais, le repas du déjeuner est prêt. Mmh. C'est aussi simple que ça.
Quand vous dites on veut un lapin, on va au clapier, ça veut dire aussi qu'on tue le lapin?
Il y a une relation à la vie, mais il y a aussi une relation à la mort et au don de l'animal, en fait, pour se nourrir. Et du coup, il faut accepter le fait que pour manger, pour se nourrir de protéines, en fait, il faut sacrifier un animal. Et du coup, il faut en utiliser son entité. Alors, c'est pas je prends que la tête ou je prends que les pattes ou on verra. On commence avec la sanquette, on mange ensuite le lapin en sauté.
Qu'est-ce que c'est que la sanquette?
Alors la sanquette, c'est en fait, il y a un moment et il faut égorger l'animal, donc on le tue. On récupère le sang sur des oignons avec un peu de vinaigre, des morceaux de pain rassis, quelques herbes du jardin. Ça coagule, on fait cuire à la vapeur la sanquette. Une fois qu'elle est cuite à la vapeur, on l'éponge et on la fait griller. Et très souvent, nous, on servait ça avec une salade de pissenlit qui était ramassée autour de la maison, quelques croutons frottés d'ail, et la sanquette, donc, coupée en rondelles croustillantes. Et ça, c'était souvent le premier déjeuner après avoir tué le lapin. Donc, ça paraît assez horrifique. C'est aussi horrifique que c'est délicieux, en fait. Mmh. Voilà, il y a un moment, la vie, c'est la vie. Il y a aussi ça, quoi.
Mmh. Mais c'est un apprentissage.
Et c'est un apprentissage.
Et voilà. D'être à la campagne, justement, de vivre dans ce mas, dans les Cévennes, c'était le premier des apprentissages pour vous.
C'est ce que j'appelle l'école de la vie. Voilà, donc on mange ce qu'on a. Ça dépasse pas. Mmh. Voilà. Si on n'en a pas besoin, on n'y touche pas.
Et on se débrouille.
On se débrouille.
Dites-nous, ce lapin, il a quel goût? Parce qu'une fois qu'on a fait la sanquette, après le lapin, on le fricasse,
ben,
non?
Non, mais le lapin, pour moi, c'est délicieux, c'est sucré, c'est fin, c'est un goût de lapin, quoi. C'est le goût des mauvaises herbes qu'on est allé ramasser dans le jardin pour le nourrir. C'est un peu ambigu comme relation, hein. C'est des lapins qu'on a souvent caressés, qu'on a aimés, mais pourtant, il y a un moment, la notion de sacrifice est bien présente et on le sait dès qu'on est enfant. On vit avec, on est avec. Avec plus ou moins de courage et plus ou moins d'envie.
Quand vous étiez enfant, donc avec vos frères et sœurs,
ouais.
Vous avez des frères et sœurs, je crois?
quatre frères, une sœur.
Voilà. C'était quoi vos jeux? C'était autour justement du jardin ou complètement
C'était le jardin. On partait dans la montagne pendant 3-4 heures avec les chèvres, un bâton, une hache, un couteau pliant, un jeu d'échecs, un bouquin, beaucoup de contemplation, à l'écoute de la nature. L'hiver, on cherche un endroit au chaud avec de la pierre pour se protéger. L'été, c'est l'inverse. On cherche les coins d'ombre sous les arbres pour manger. Les parcours diffèrent suivant les saisons. Donc, c'est vraiment, à l'écoute de la vie, à l'écoute de la nature, en fait.
D'une nature bien particulière, en plus, parce qu'on est dans le sud de la France.
On est sud dans la France.
C'est très chaud l'été.
Massif des Cévennes. Donc, c'est très chaud l'été. Ça ressemble un petit peu à la Corse. Beaucoup de châtaigniers. C'est assez escarpé, quand même. Et l'hiver, il fait froid, il n'y a pas beaucoup de soleil. Il y a un hiver en 82, je crois qu'il a fait jusqu'à moins 20, donc c'était assez sympathique.
C'est rugueux.
C'est rugueux, mais j'ai aucun regret. Au contraire, ça me manque énormément aujourd'hui. Cette relation directe, cette relation simple, en fait, aux choses. C'est des relations très simples. Il n'y a pas de calcul, il n'y a rien. On a ce qu'on a.
Vous parlez des châtaigniers. Du coup, il y avait de la farine de châtaigne également?
Alors, farine de châtaigne, châtaigne sèche, confiture de châtaigne, enfin bon, tout se fait autour de la châtaigne, du cochon, beaucoup, la volaille, le lapin, et il y a très peu de vaches là-bas. La topologie, elle n'est pas faite, c'est pas fait pour, quoi. La vache, si elle marche, elle se casse la gueule, hein.
C'est aussi simple que ça. C'est pas idéal.
Et il y a des chèvres, voilà.
Ouais, c'est
beaucoup arrivé. De chèvres.
Ouais. Ouais.
Donc, il dit chèvre, dit chevreau, ouais. Aussi. Ça, c'était le plus dur.
Votre relation à la cuisine, tout de suite vous avez pensé cuisine, jardin égale cuisine ou...
Non, ça c'est venu un petit peu après. Encore une fois, on invitait, il y a toujours beaucoup de monde à la maison. Donc au minimum, on était 6-7 à table, 8 quand mon père était là. Le week-end, c'était facilement entre 10 et 16. Il suffit d'inviter un copain, que quelqu'un vienne aider à la maison le week-end pour une construction qui est... Tout de suite, très très rapidement, on était des grosses tablées. Et donc forcément, je pense que j'ai aidé ma maman. Tout le monde aidait. Hein. Et moi, quelque part, c'était presque un refuge à un moment. Et puis, c'était un grand plaisir de participer, de donner. Non, mais c'est super chaleureux. C'est les grands moments de communion, d'échange, que de faire la cuisine.
Vos grand-mères aussi vous ont pas mal inspiré.
Alors, Mamouchette.
Ça, c'est un bon nom de grand-mère, je trouve.
C'est un bon nom de grand-mère, oui. Mamouchette était un peu la reine, quand même. Quand on allait chez elle, surtout, alors à Lyon, c'était les gratins de cardon, le gigot et les huîtres. Mais quand on était à Oléron, c'était les plâtrés de langoustine, toujours les huîtres, la soupe de poisson. Et alors on avait pêché à la palangrotte avec le grand-père, on emmenait le poisson, on faisait la soupe. Ça, c'était comme la fête. Et les céteaux.
C'est quoi les céteaux?
Alors les céteaux, c'est une sorte de toute petite sole, c'est grand comme la main.
Ouais.
Et elle nous en préparait, on en mangeait, mais on en mangeait comme des salauds, quoi. C'est juste délicieux. C'est l'enfer, c'est... Voilà. Et donc, j'ai vécu... j'ai eu une enfance très malheureuse, en fait.
Oui, c'est ce qu'on entend, en fait, depuis le début de cette
émission.
C'était
atroce. On m'a forcé tout le long.
Et ce goût, outre le goût de cuisiner, d'apprendre en cuisinant avec ses parents, avec les amis des parents, avec la famille,
ouais.
Vous êtes assez rapidement dit, la cuisine, ça va être mon moyen d'expression, ça va être... En fait,
alors,
c'est mon moyen de partage.
Au début, ça a commencé avec... j'aimais beaucoup faire du dessin. Et donc, j'avais un choix où c'était l'école de l'art... ou la cuisine. Mon grand-père m'a gentiment tapé sur l'épaule, il m'a dit, tu sais, les gens qui vendent des tableaux chers, c'est peut-être pas une évidence, par contre la cuisine, ça a peut-être plus de sens. Et donc je suis allé au lycée hôtelier, j'ai d'abord fait un stage, après je suis allé au lycée hôtelier, ça s'est très très bien passé, et après c'est parti de là, c'était tout droit en fait.
Mmh. Mais on vous emmène là où vous êtes allé, au début de votre carrière de cuisinier.
Mmh.
Je crois que c'est un endroit que vous avez assez apprécié. Écoutez.
Ah. J'aime bien la cueillette dès 6 heures. Parce que je suis seul, la nature s'éveille et je découvre un peu l'univers de mon jardin avec les éléments climatiques qui le mettent en scène. C'est peut-être la pimpernelle qui va être perlée de toutes ces gouttes de rosée. Aujourd'hui, demain, elle va pas être comme ça, donc je vais porter l'attention sur une autre plante. J'aime bien découvrir le jardin par la vision, par les contre-jours, par cet éveil avec les insectes. J'aime bien la découvrir, si vous voulez, aussi par les parfums. On n'a pas les mêmes parfums en plein été qu'au printemps. Et puis, alors, dans ma visite du jardin, au départ, j'aime bien effleurer les plantes, les caresser, voir comment elles se comportent. Une oseille du printemps ne va pas être la même que celle de l'automne. Elle ne va pas avoir la même souplesse. C'est tout un autre champ d'expression. Et donc, quand je pratique cette cueillette avec les cuisiniers et mes jardiniers, l'offre qu'on fait pour Sébastien va amener une signature à des plats peut-être différents.
Alors, qui vient de parler, Antonin Bonnet?
C'est mon deuxième papa, c'est Michel Brasse.
Qu'on a eu la chance de recevoir dans le Goût du Monde pour parler de son jardin.
C'est un monsieur incroyable, en fait. Comment une personne aussi sensible, aussi douée, avec une vision aussi extraordinaire, ait pu passer sous le radar pendant de si nombreuses années, pour moi, au niveau de la cuisine française, c'est presque dramatique. Il est adulé de partout dans le monde, et en France, on en entend très très peu parler. Alors c'est peut-être une volonté de sa part, je sais pas, mais pour moi c'est assez énigmatique. C'est un bonheur, parce que c'est presque un jardin secret, mais c'est presque un malheur pour la cuisine française. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse.
Donc Michel Brasse, juste pour recontextualiser.
Donc Michel Brasse,
pour cuisinier, faire... 3 étoiles de longues années, dans l'Aubrac, à l'Aïeul. Donc on est vraiment sur un plateau rude.
Mais il y a une énergie, ça c'est... Je ne sais pas comment expliquer, j'y suis retourné il y a quelques années, donc en voiture. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche du plateau de l'Aubrac, on sent cette sorte de magnétisme omniprésent, ce bruit qu'on n'entend pas.
Quel bruit?
Il y a un truc. Non, mais c'est on sent une énergie et c'est captivant et c'est profond. Mmh. Et lui, il a su lire, écouter tout ça et c'est incroyable.
L'observation.
Il a su observer, ouais.
Écoutez.
Si vous voulez, il faut savoir qu'on est dans un pays quand même qui était, je vais pas dire miséreux, mais donc la nourriture, il n'y avait pas de gaspillage. On faisait de la cuisine avec 3 fois rien. Je veux parler, mettons, du tanous. C'est ces rejets de pousses de choux qu'on avait au printemps. C'est-à-dire que dans la plante, on l'exploite dans toute sa croissance. L'autre, on avait le chou, puis quand on avait ces rejets de pousses, mais ces rejets de pousses qu'on travaille encore au jour d'aujourd'hui, on les travaille de différentes façons. C'est cette notion du végétal qui a incorporé mon monde petit à petit. Et donc, je suis un coureur à pied, marathonien à l'occasion, et j'ai découvert mon plateau, et il m'a soufflé plein de secrets, plein d'odeurs, plein de goûts. J'ai rencontré l'oseille, j'ai rencontré l'érythrone, j'ai rencontré plein de choses comme ça. Elle m'a guidé un peu la nature. Quand vous courez, mettons l'automne, enfin mois d'août, mois de septembre, et que vous goûtez les mûres de ronces, mais vous prenez celles qui sont baignées de soleil, parce qu'elles sont bien meilleures. C'est comme ça que la nature est arrivée petit à petit. Vous savez, cette cuisine de rien, c'est un bout de la rance qui amène cette tonalité sur le beignet. Il faut pas grand chose.
J'ai souvenir de mes grands-parents passant des heures et des heures dans le jardin qui était à quelques mètres finalement des cuisines de ma grand-mère. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de plaisir à aller, enfant avec mon frère, aller à ses côtés, participer aux cueillettes. Tu parlais tout à l'heure des mûres de ronces. C'est vrai que nous faisions les confitures régulièrement avec elle. Enfin, il y avait tout ce rapport à la nature et cette initiation finalement à des goûts, à des choses très simples, mais qui finalement forgent un caractère, une identité et un goût. Et aujourd'hui, ce goût de mon territoire, de mon enfance, c'est ce qui ressort quotidiennement dans mes créations. Et ça, je crois que c'est assez fondamental. Et quel que soit le créateur, quel que soit le domaine, je crois que ce retour, finalement, aux enfances, aux origines, est toujours très marquant dans nos histoires.
Et oui, parce que Michel Brasse était venu avec son fils Sébastien, qui est le chef aujourd'hui du Souquet, donc le restaurant de la famille. Cet ADN, cette empreinte dont parle Sébastien Brasse à la fin, et cette cuisine de peu et de rien, là j'ai 12 questions en une.
Oui.
Quelle empreinte cette philosophie a-t-elle laissée chez vous et vos années passées chez eux?
Alors, je pense qu'inconsciemment, l'empreinte était déjà là. Et le fait d'aller travailler avec Michel au Souquet pendant cette période a été une révélation et en fait une confirmation de ce que je savais quelque part déjà. Il faut savoir que quand vous allez au hôtelier, on vous dit que pour faire une sauce, il faut prendre 90 produits dont vous n'avez sûrement pas besoin. Enfin, c'est de l'architecture culinaire. Et à un moment, la cuisine, il n'y a pas que ça.
Quand vous dites architecture, pour bien comprendre.
C'est des constructions. C'est intellectuellement, c'est des constructions.
Si on additionne.
Quand on a des produits qui n'ont pas beaucoup de goût, on est obligé d'en mettre beaucoup pour construire quelque chose. Mais quand vous êtes face à un terroir avec des produits qui sont 3 fois rien, mais qui ont une vraie identité, tout à coup, la cuisine est plus simple, elle est plus fluide et plus naturelle. Le geste doit être plus simple. Et pour moi, c'est une confirmation en allant chez eux de savoir qu'on pouvait faire les choses d'une façon plus simple, avec un geste plus droit, basé sur l'observation et sur le vrai goût des vrais produits, en fait.
Le gargouillou, c'est un peu...
Gargouillou, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, mais l'idée
mais c'est l'évocation de ça, un peu, j'ai l'impression, de vos propos, de gargouillou. Alors, juste en deux mots...
C'est un morceau de lard qui est infusé dans un morceau de beurre, on est gras sur gras, qui vont venir enrober en fait tous les légumes d'une saison et qui vont être mis en relief avec tous les arômes, fleurs, feuilles et les cueillettes de la même saison. Et donc en fait, c'est un plat qui tout au long de l'année en fait évolue avec les jours, les cueillettes, la climatologie, enfin l'environnement dans lequel il est. On peut faire un gargouillou sur les plateaux de l'Aubrac comme on fait un gargouillou dans une autre région de France. Ils vont avoir, même si on décide de choisir les mêmes ingrédients et la même technique, les goûts vont être complètement différents. Le beurre va être différent, le lard va être différent, les légumes vont être différents, le tour de main va être différent, le sel va être différent. Le goût sera différent, le plat peut avoir le même nom.
Je suis partie là.
Interprétation. Ouais.
Et ça, pour vous, ça a été vraiment l'endroit où vous êtes dit, la cuisine telle que je la sens, en fait, je peux la faire. Elle est, c'est cohérent de penser et de la faire, de m'en faire l'écho.
Oui, c'était très cohérent. Il y avait, au niveau philosophie culinaire, je pense que c'est l'endroit le plus profond. C'est un peu difficile à mettre des mots là-dessus, en fait, c'est très compliqué.
C'est plus une sensation.
C'est plus une sensation, voilà. C'est plus un mode d'emploi, une philosophie qu'autre chose. Il n'y a pas de recette.
Quand on parlait de la cuisine de peu, de la cuisine de rien, en fait, c'est une cuisine du bon sens paysan, j'ai envie
Tout
de dire.
À fait, ouais.
C'est une cuisine dans laquelle vous vous retrouvez complètement. C'est votre cuisine aussi.
Ben, c'est le retour à l'essentiel des choses, en fait. C'est comment cuisiner, sublimer, sans dénaturer. C'est pas forcément une évidence, mais il y a une vraie méthode autour, il y a un vrai travail. C'est possible, en fait. La première chose, c'est écouter le produit, le regarder, se remettre dans le contexte. Et si on peut faire ces quelque chose, eh ben, je pense qu'on peut en faire une cuisine plus limpide, plus claire.
Dans votre restaurant à Paris, chez Kinsu, on est bien loin des montagnes, bien loin de... Comment on fait justement pour trouver ce produit, ce travail de... On appelle ça sourcing à l'anglaise, alors que c'est tout simplement...
Ouais, aujourd'hui, il y a sourcing, name dropping, il y a plein de noms, parce qu'aujourd'hui, on s'en sert un
comment
petit peu.
Comment vous faites, vous, pour
la première
justement...
chose, c'est d'avoir beaucoup de discussions en fait avec les producteurs, d'essayer de comprendre les environnements, qu'est-ce qui pousse où, quoi et comment. Ensuite, il y a cette relation, les souvenirs avec la saison et les associations naturelles. Ça vient, c'est comme ça. Après, on essaye de surligner avec des épices ou pas, un tour de main pour apporter un peu de complexité, des fois un petit quelque chose. J'ai pas vraiment de recette, ça vient comme ça, c'est naturel.
Et ce sourcing, du coup, est-ce que, enfin, pour vos approvisionnements, pour trouver vos légumes, vos fruits, tel que vous le souhaitez, est-ce que vous voyagez? Comment vous faites?
Après, il y a un peu de non-sens parce que je suis à Paris et que j'essaie de faire les choses en allant les chercher chez les petits producteurs. Je pourrais vivre à la campagne, comme les Brasses. Je pourrais vivre sur un plateau, comme d'autres le font. Aujourd'hui, je suis sur Paris, donc. Sur Paris, j'essaie de faire, pas avec les moyens du bord, j'ai beaucoup de chance, j'en connais quelques-uns. Au niveau relationnel, ça se passe plutôt très très bien. J'essaie d'entretenir des relations simples avec eux, de comprendre, les écouter, savoir connaître leur production, leurs besoins, et de travailler avec eux en toute simplicité en fait. Voir qu'est-ce qui est disponible, à quel moment, qu'est-ce qui est au mieux, qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
Et vous travaillez notamment, j'ai juste dire son nom parce qu'on a eu la chance de le recevoir dans l'émission, Pierre Gaillet.
Pierre Gaillet, oui.
On a parlé de piment avec lui et Mercedes Agumada. Évidemment, de ses piments, de ses herbes, de son maïs. C'est de cette relation qui vous nourrit également, cet échange-là? Il est permanent?
Il est permanent. J'aimerais pouvoir partager un peu plus de terre avec eux. Je dis ça, mais je suis même jamais allé le voir sur son terrain, donc je suis vraiment coupable de ça. C'est peut-être ce manque à la terre, en fait, qui fait que j'ai vraiment envie de travailler avec des gens comme ça.
Qui sont vraiment
peut-être
connectés.
Tout simplement, ouais. Ils sont connectés. J'ai besoin de cette connexion constante, en fait, avec le milieu de la terre.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin.
engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Petite cuisine quand même.
Oui, très petite.
Donc on fait comment?
On se faufile. On se faufile ou on pousse?
C'est une danse en fait.
C'est ça.
On regarde la journée. On peut apprendre à se placer.
Au début c'est un peu difficile, mais après en fait on commence à connaître les gens et on sait comment ils se déplacent dans la cuisine et on arrive à se déplacer en fonction d'eux. Et puis il y a des moments où on se comprend pas, donc on se rentre dedans. Et à ce moment-là c'est un peu.
Ça, ça sent trop bon.
Là, il y a du jus qui est en train de cuire, du jus de veau. Et dans le four, j'ai des croquines à la noisette.
Vous nous rejoignez, bienvenue. En fait, nous étions dans la cuisine du restaurant Kinsu, dont vous êtes le chef et le propriétaire Antonin Bonnet. Depuis le début de cette émission, on a passé pas mal de temps dans la nature, en fait. On était bien en contact avec cette nature.
Ouais.
Et dans cette petite cuisine, qui est étonnante parce qu'elle est effectivement tout en longueur.
Ouais, elle doit faire 3 mètres par 2.
Voilà, tout petit. On a quand même 3 personnes, en tout cas le jour où il y était. Vous êtes 5 en tout, il y a le plongeur aussi.
Ouais.
Et il y a vraiment comme un balai. On slalome, et chacun ses fleurs.
En fait, on s'en est pas rendu compte, mais il y a une vraie histoire de fluidité à l'intérieur de la cuisine. Au niveau du travail, au niveau de l'organisation du travail, au niveau des mouvements, pour travailler sans accroc en fait. On parle très bas.
Mais d'ailleurs, j'y suis allée pour pouvoir enregistrer un petit peu les conversations.
Tout est super organisé, chaque chose est à sa place. Pour nous, ça nous paraît simple aujourd'hui. Les gens qui viennent de l'extérieur sont assez surpris parce qu'en fait, il y a très peu d'accroches, très peu d'accrocs. C'est vraiment basé sur la fluidité du service en fait. Chaque plat est pensé, réfléchi, pour qu'ils puissent rentrer dans le schéma physique de la cuisine. Et après, culinaire, bien sûr, mais donc c'est tout en un, en fait. On cherche pas à comprendre. Aujourd'hui, c'est une méthode, et dans cette méthode, en fait, on essaye vraiment de tout s'imbrique. Tout se lie, tout se délie, tout avance. C'est l'eau qui descend dans la rivière. Il y a pas un moment où ça bute. On passe autour du rocher, on tourne, on redescend, on coule. Voilà. Et le moins ça frotte, le moins ça grippe, plus on peut profiter du paysage et du voyage. Mmh. Et c'est aussi simple que ça. Et qu'on fasse 10 ou qu'on fasse 35, 40 couverts, il faut que ce soit la même fluidité avec plus ou moins de vitesse, tout simplement.
Mmh. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en face du passe, donc c'est comme une fenêtre ouverte sur la cuisine.
Un petit peu, c'est la télévision.
Ouais. Mais en face, il y a un miroir. Donc on peut être en train de manger et regarder ce qui se passe dans cette petite cuisine. Et
un
avec cette fluidité dont vous parliez, avec vos uniformes qui sont très sobres. Donc on a vraiment l'impression d'être, à côté d'une rivière. Et même le restaurant est tout en longueur. Donc toutes ces tables côte à côte font comme si c'était une grande table où tout le monde peut manger ensemble.
Ouais.
Alors, ce qui est une révélation aussi, c'est quand on vient chez Kinsu, eh ben on sort de chez Kinsu et quelques mètres plus loin.
On y va ? Ça va, vous ?
Ouais, très bien.
Bonjour.
Ça tomate ?
Oui, ça pousse. Hein.
On a les premières fleurs ?
Oui, c'est ce que je vois.
J'aimerais bien transformer la rue en village, en fait. C'est mon idéal. Non, sérieux.
On va où, là ?
Là, on va à la boucherie. Là, je fais 50 mètres et on y est. Et c'est la deuxième maison.
Salut.
C'est comme un magasin de bonbons.
Non. Pour adultes. Moi, je me lasse pas, moi. Je me lasse pas.
C'est beau, ça sent bon.
En plus, on fait la cuisine sur place, donc ça sent toujours très bon, en fait.
Ça sent pas la viande.
Non, ça sent pas la viande, ça sent très très bon. En plus, j'étais dans votre pas quand nous sommes allés à la boucherie Grégoire, donc vraiment à trois pas de part, je crois, de Kinsou.
Ouais,
on est juste à côté. Pourquoi cette boucherie?
C'est un accident, en fait, on va être honnête.
C'est une miscellanée.
La boucherie était vraiment à côté et on recevait déjà les carcasses entières. Je travaillais beaucoup avec Anne-Laure Jolivet, par exemple, qui m'envoyait des agneaux, du veau, parfois du bœuf, parfois, parce que le bœuf, c'est quelque chose qu'on fait... très très peu au restaurant pour une raison très simple. Le bœuf demande beaucoup plus d'énergie à produire que les autres animaux. Donc on l'utilise beaucoup moins. C'est un souci, on essaie d'être raisonnable. Donc c'est pas qu'on n'aime pas ça, on adore ça. Mais par conscience, tout simplement, on l'utilise un petit peu moins. Et donc un matin, mes agneaux n'arrivent pas. Donc on cherche les agneaux avec Anne-Laure. Et Anne-Laure me dit, écoute, tes agneaux ont été livrés à la boucherie à côté. Donc je vais pour sortir pour chercher les agneaux, et à ce moment-là, le boucher, Patrick, arrive, et me dit, écoute, j'ai reçu tes agneaux, ça dérange pas, on les a pendus, ils sont bien. Je te montre. Donc je le suis, je rentre dans la boucherie, je regarde effectivement dans la chambre froide, les trois agneaux étaient pendus. Ils m'ont dit, t'es pas obligé de les faire aujourd'hui, tu peux les faire quand tu veux, quand tu as le temps. Donc pour moi, c'était plutôt arrangeant, parce qu'avant, on recevait les agneaux, et dans les deux heures qui suivaient, il fallait que les agneaux soient coupés, rangé, mis sous vide, enfin bon, il fallait tout faire très rapidement pour pouvoir les ranger dans la toute petite chambre froide qu'on a à Kinsou. Et donc tout d'un coup, je me suis dit, ben c'est pratique, piouf, c'est facile. Et en fait, il s'est passé quelques mois comme ça de relation, et puis ça m'a permis d'observer le lieu, de m'apercevoir qu'il était un peu décrépit, qu'il y avait un manque d'amour quand même dans le lieu, qu'il y avait moins de clients que d'habitude, et que, après tout, ça serait peut-être sympa qu'on puisse peut-être transformer ce lieu en faisant autre chose. Et donc j'ai fait une proposition au propriétaire, qui était très surpris, qui était un peu vexé au début, qui a dit non.
Pourquoi vexé?
En fait, je me suis mal pris, en fait. Je pensais que ça appartenait à Patrick, la boucherie, donc j'ai demandé. Lui, il n'était qu'employé. S'est dit, mon Dieu, c'est à vendre, mais je ne suis pas au courant.
Ah oui, maladresse.
Quiproquo maladresse. Du coup, le propriétaire, le lendemain, arrive à 8h pétante en me disant, ça se fait pas. Je lui présente mes excuses. Je lui demande quand même, et il me dit non. Je dis, bon, bah tant pis. Il me dit, par contre, tu peux continuer à mettre tes carcasses si tu veux, ça dérange pas, mais juste c'est non. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, il revient quelques mois plus tard, et il me dit, au fait, la proposition, ça tient toujours. Voilà. Et il a fallu quand même un an et demi pour que ça se fasse. Ça n'a pas été facile, je ne suis pas du sérail, donc je ne suis pas boucher de métier. La Chambre des commerces a voulu s'assurer que c'était sérieux, ce que je prends plutôt comme...
un gage de garantie.
Un gage de garantie est positif, c'est important, donc ils n'ont pas voulu faire n'importe quoi. Il a fallu que j'embauche 4 vrais bouchers, il a fallu qu'on fasse pas mal de travaux pour mettre les choses sanitairement aux normes derrière, redonner de l'amour à la boutique de vente parce que on avait besoin. Je pense hier on a fait réparer les fenêtres apparemment seraient des années 1920. Donc c'est
oui,
pas
c'est un vieux local en fait.
C'est un vieux local, hein, c'est très joli.
Avec des marbres, j'ai l'impression.
Il y a du marbre sur les côtés, il y a non, c'est superbe. Faut y aller voir. Ça c'est plus simple.
Faut y aller. Donc c'est juste à
faut
côté de Kinsou et de l'abbé Grégoire.
Non, et du coup voilà. Donc après j'ai eu un gros moment de doute où je voulais pratiquement plus, je me suis dit j'ai fait une erreur en fait. La viande aujourd'hui, c'est la chose qui pollue le plus. C'est pas une évidence. Je remettais même en question ma quantité de viande que je mangeais à la semaine personnelle, ou même dans les assiettes, dans les menus à Kinsou. On a un volume très précis. Suivant les menus, on met tel poids, tel poids, tel poids. C'est pas parce qu'on veut pas en donner beaucoup, c'est parce qu'on pense que c'est suffisant. Après, si quelqu'un en veut plus, on en donne plus. Il y a pas de problème. On n'est pas radin. On est juste consensueux.
Une consommation raisonnée, en
fait. Je pense qu'il faut être raisonnable.
De la viande.
Après, si vous en voulez plus, c'est avec grand plaisir. C'est juste que...
dans un air du temps, en plus, qui va, qui vient, et exactement. La viande n'est plus forcément en odeur de...
Donc, pour revenir à l'idée principale de... est-ce que c'était bien raisonnable? Non, peut-être pas. Et puis, je me suis dit, finalement, si c'est pas toi qui la prends, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et si à 50 mètres de ton restaurant, quelqu'un d'autre prend la boucherie et qui fait n'importe quoi, là... tu vas très très mal le vivre en fait. Et donc je me suis assis et je me suis dit, écoute, on va mettre un cahier des charges en place sur si on fait de la viande, comment est-ce qu'on s'en occupe? Avec quels élevages on va travailler? Quel type de viande on va travailler? Quel type de travail on va avoir avec la viande? Quel type de relation en fait? Et donc on a mis un cahier des charges personnel pour cette boucherie, qui est peut-être pas parfait, mais qui pour nous est aujourd'hui consensueux, qu'on pourra toujours améliorer, c'est certain, on est loin d'être parfait, je pense qu'on est à 75%, même 60% de là où on voudrait être, mais c'est tous les mois un petit peu plus par contre.
C'est voilà. Intérêt pour le bien-être animal, la façon dont on les sols.
On va commencer avec le début, l'environnement, les sols, ensuite la souche animale par rapport à l'environnement, donc le bon sens, la méthode, ensuite l'abattage, le transport, puis pour nous le travail, donc le travail en carcasse essentiellement, utiliser si possible l'intégralité de l'animal, en passant des os jusqu'au cartilage, tout, pour tout utiliser, donc les jus, les fonds, les terrines, les pâtés, les morceaux bas, les morceaux moins bas, tout utiliser pour assumer le fait que on a tué un agneau ou une poule, on utilise tout. On essaie de gâcher le moins possible. Ça, c'est super important.
On a entendu London's Calling des Clash tout à l'heure. C'était pas tout à fait par hasard, évidemment, parce que vous avez vécu en Angleterre, à Londres. Et vous avez notamment peut-être fait la rencontre d'un monsieur qui, en matière de respect de l'animal, est assez extraordinaire.
So, we've got our pig. This is Gordon.
C'est bon, j'ai mon cochon, la tête. Maintenant, on va rencontrer Fergus Anderson, le maître incontesté de l'anti-gaspi, de l'animal cuisiné de la tête à la queue. Il est à l'origine de l'une des révolutions les plus importantes de la gastronomie britannique de ces 20 dernières années. Son bon sens, la manière dont il décrit ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Ce n'est pas seulement une question de respect de l'animal, mais aussi de savoir-faire. La manière dont il sait cuisiner toutes les parties de l'animal. Ça va être super si j'arrive à m'arrêter de glousser en permanence tellement je suis fan. Ah, voilà le Saint John, un temple pour les foodies, les gourmets. Bonjour.
Mais bien sûr, il glousse. Parce que c'est un personnage. Alors racontez-nous un petit peu Fergus Anderson. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer?
Alors, moi, je l'ai rencontré 2-3 fois. Je le connais pas personnellement.
En deux mots, peut-être, cuisinier qui a pour dicton. Ou motto de cuisiner l'animal de la tête à la queue, from nose to tail, et qui justement a remis au goût du jour de nombreux plats et préparations anglaises. Qu'on ne faisait plus et qu'il a du coup remis au goût du jour. En faisant des pailles, en faisant des tartes, et qu'il a dit comment on pouvait à nouveau cuisiner.
En fait, il y a toute une partie de la cuisine bourgeoise, même française et anglaise, qui utilisait l'animalité dans son intégralité, avec beaucoup de délices d'ailleurs, avec de gourmandises. Et aujourd'hui, on a un peu épuré avec, on pense que sur le bœuf, par exemple, il y a la côte, le filet et le steak haché.
Il n'y a que deux filets sur un bœuf.
Donc, il n'y a que deux filets. Ça représente 3% de la masse de l'animal. Je voulais découvrir qu'il en reste quand même 97%. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Et on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une diversité de plats, il y a une culture, il y a beaucoup de choses. Et c'est affolant qu'on ait oublié un petit peu tout ça quelque part. Il y a tellement de choses en fait à explorer, à voir, à découvrir, mais il faut reprendre contact un petit peu avec son artisan boucher, il faut se remettre à cuisiner, passer du temps en fait en cuisine. C'est toujours sympa de passer du temps en cuisine, on peut déboucher une petite bouteille de vin, boire un canon, faire la cuisine, asseoir quelqu'un à table à côté de soi pour faire le travail. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à la maison. C'est des moments de convivialité incroyables, inoubliables, de gourmandise, de complicité. On s'ennuie jamais. On peut même passer de la musique pendant que ça se fait. Enfin, je veux dire, c'est la vie quand même.
C'est la vie. Et justement, ce rapport avec, en ayant une boucherie, est-ce que cette démarche-là, vous la faites également, du coup? C'est la suite. En fait, a posteriori, on dit que c'est un peu la suite logique de votre démarche, cette boucherie.
C'est la suite logique, en fait, quelque part. C'est le développement de ce qu'on faisait déjà au restaurant Kinsou. Et quelque part, c'est assumer encore un peu plus cette démarche et l'approfondir. Donc aujourd'hui, on a ouvert la boucherie toute simple, et je pense que d'ici quelques mois, on va remettre la cuisine au cœur de la boucherie. Donc c'est une première, j'en ai pas trop parlé encore, parce que c'est une nécessité en fait, pour donner encore plus d'énergie.
Veut dire quoi, remettre la cuisine?
On va mettre une table à l'étage, parce que j'ai un petit appartement à l'étage, donc on va mettre une table et on va faire la cuisine en fait, avec ce qui est disponible dans la boucherie, pour que les gens comprennent qu'il y a une vraie relation culinaire en fait, entre l'art de la boucherie, en fait, la viande, et est-ce qu'on peut en faire, en fait.
Et d'ailleurs, les préparations que vous faites, tout est fait maison à la boucherie.
Tout est fait maison.
Donc, tout ce qui est saucisse, tout ce qui est... En plus, elle est internationale, parce qu'on découvre des saucisses au kimchi, donc ça, c'est...
Ouais,
le...
Aujourd'hui, on a fait... Ouais, ça me partit un petit peu sur un coup de tête, parce qu'en fait, je fais la saucisse aux herbes, donc, qui est une saucisse Cévenol, qui est basée... C'est une saucisse végétarienne. 50% de blettes, 50% de viande. Donc là, en fait, on a fait la même chose, mais avec du kimchi, donc qui est un chou fermenté coréen, épicé ou non, une des bases alimentaires en Corée, et qui, avec le cochon, s'allie à merveille. Et donc, je me suis dit, mais on y va, on essaie, on fait un essai. Et c'est juste incroyable, quoi. Il n'y a pas de mots, aujourd'hui, c'est la saucisse préférée de tous les clients. Et là, on a un gros malheur, c'est qu'on n'en a pas fait depuis 2 mois, et les gens gueule. On se fait engueuler.
Mais parce qu'ils n'ont pas encore eu vent de cette saucisse en préparation que j'ai croisée dans la chambre froide quand je suis allée chez vous.
Oui, alors on a fait une entorse au règlement, on a fait une saucisse vietnamienne, qui s'est vendue d'ailleurs ce week-end très très bien, et on a fait la saucisse banh mi, à base de 5 épices, d'oignons caramélisés, de champignons noirs, et de poivre blanc en fait. Et c'était vraiment pas mal.
Donc on prend la saucisse, on prend son pain, on rajoute de la menthe.
On rajoute des pickles, on rajoute... Il y a de la menthe, il y a une sauce un peu épicée. Et on y est, quoi.
On y est. Quand je suis venue donc à la boucherie Grégoire, ouais. Deux bouchers étaient en train de mettre dans des grands sacs une matière blanche, très très blanche. En fait, c'était de la graisse de l'animal.
Tout à fait, ouais.
Et je leur ai demandé, mais tout ce gras pour faire quoi ?
Alors, nous, on garde tout le grain parce qu'on transforme tout, en fait. On va faire des terrines, ouais. On va faire des saucisses, on va faire de l'oignon pâté de foie, tout le gras de notre animal. Comme c'est des cochons qui sont élevés en plein air, qui sont nourris de façon très correcte. Du coup, le gras est bon, donc on le garde pour toutes les transformations. Ce qu'on appelle le triage, en fait. On trie tout le cochon et on perd rien, quoi.
Le gras. Et on fait cuire ce gras,
c'est ça. Le gras, on va le faire cuire. On va le mélanger avec le côté maigre. Il y a un pourcentage à respecter, hein, entre le maigre et le gras. Et ça va partir donc de nos recettes, de nos pâtés, de nos rillettes, de tout ça, quoi.
Antonin était en train de nous raconter que ça nécessite un petit peu un travail assez ordonné.
J'aime bien quand c'est bien rangé, en fait. Et donc, quand j'approche les recettes, même si des fois il y a toujours un côté nature et naturel et un côté spontané, au travers de ça, j'essaie de réorganiser le tout derrière, parce que si je veux que les gens puissent reproduire cette recette, il faut que ce soit super structuré. L'idée, c'est quand quelqu'un vient à la boucherie et achète une tranche de pâté en croûte, ou une tranche de pâté de foie, etc., au-delà de la fluctuation du goût de l'animal en lui-même, il faut qu'on puisse reproduire la recette tous les jours, de la même façon. Donc ça, c'est un peu les Anglais qui m'ont appris ça.
La cohérence est toujours...
Consistency,
en fait.
Ils appellent ça. Mm-hmm. You have to be consistent.
La régularité.
La régularité, voilà.
Ce gras, en fait, ce qu'on voit aussi sur les étagères de la boucherie, on voit la viande, et donc ce gras. Comment est-ce qu'on l'apprécie, ce gras? Alors, qui s'expose?
Les gens sont très surpris, ils pensent que le gras... on doit faire attention au gras, on ne doit pas manger trop gras. Oui, on ne doit pas manger trop gras. Aujourd'hui, je ne pense pas que le gras soit le pire des ennemis. Je pense que le sucre est le plus gros ennemi. C'est ce qui nous fait grossir aujourd'hui, plus que le gras. Donc, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, avant de manger toutes ces quantités de sucre énormes, on avait moins de maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas parce qu'on mangeait moins gras. On mangeait gras, on mangeait peut-être moins. Attention, hein, je n'étais pas là pour voir. Mais surtout, on mangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sucré. Donc le gras, aujourd'hui, c'est comme la vie. Sans gras, notre corps ne fonctionne pas, il faut être clair. Quitte à manger du gras, autant manger du gras qui est bon. Donc nous, on garde tous nos gras, on le trie, et après, sur des pourcentages très précis, on le rajoute dans les recettes pour ajouter du goût. Donc il faut pas se voiler la face. Une tranche de jambon cru sans gras, ça a pas trop de goût. Un jambon cuit sans la matière grasse, c'est pareil. Donc il faut arrêter les délires sanitaires débiles, je vais être clair. Mangez-en un petit peu, vous verrez. C'est du bonheur quand même. Et c'est pas ça qui va faire la différence sur les hanches ou sur le reste du corps. C'est souvent l'alcool qu'on boit, c'est souvent les tartines sucrées, c'est les desserts, c'est tout ça le délire.
Mangeons du gras.
Donc manger un petit peu de gras, ça fait pas de mal.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Thank you.
Starry Night de Peggy Gou, la coréenne sur RFI. Bienvenue, vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec le chef du restaurant Kinsu, Antonin Bonnet. Et depuis le début de cette émission, on voyage en terre de très bons. Et de très 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 bon. Je ne sais pas si les auditeurs ont entendu, mais quand on se dirige vers la boucherie, vous nous dites, en fait, moi je voudrais créer un village. Donc il y aurait la boucherie.
Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une idée fixe un petit peu.
Oui, j'ai l'impression.
Et en fait, c'est un village, mais c'est presque une communauté en fait, où les gens pourraient aller d'un magasin à l'autre, où on pourrait avoir du bon, pour moi forcément du beau, et en se faisant du bien. Donc c'est les 3B hein, quelque part. C'est pas faire juste pour faire, c'est pas une histoire d'amasser ou c'est pas une histoire de richesse, c'est moins une histoire de communauté, de partage. Aujourd'hui, je délègue à toutes les personnes à qui je bosse, tous les jeunes, et je leur donne le plus grand nombre de responsabilités possibles. Je veux qu'ils prennent le plus de projets pour eux. C'est-à-dire, j'ai besoin de leur énergie pour driver. Donc en fait, j'ensemence autour quelque part pour qu'ils puissent développer et que quand ils partent, développent aussi. Donc en fait, j'essaie de créer une contagion. Et donc, si je peux la développer autour de moi, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Voilà. Et donc, l'idée d'une boulangerie, l'idée de faire un fast-food, mais et de taper dans différents niveaux. C'est pas l'hypralux, c'est l'honnêteté, l'éthique surtout.
Vous êtes encore toujours dans la même. Parce que vous dites, je ne sais pas d'où ça vient, mais en même temps, quand on vous écoute, on se dit que c'est assez cohérent en fait tout ça. Est-ce que la boulangerie pourrait faire du salé?
La boucherie pourrait faire du salé. Mon rêve, ce serait faire des. Des viennoiseries salées presque.
Des viennoiseries salées, et puis même au-delà de la viennoiserie, vous pourriez reprendre justement ces recettes classiques françaises de pâté, de tiel, de...
En fait, il y a un tel patrimoine culinaire qui est encore exploité, mais pour moi pas assez. Les Anglais le font presque mieux que nous, je trouve. Alors, il y a une renaissance quand même des classiques, mais je pense dans la cuisine bourgeoise, on pourrait aller chercher encore un peu plus. Il y a tellement de bonheur sur tellement de recettes, et régionales, hein. Robuchon, que j'aimais pas trop, a fait un super bouquin il y a quelques années sur la cuisine régionale, qui est magnifique, qui vaut vraiment le coup d'être lu, avec des superbes recettes, et il y a une telle exploration à faire, c'est juste dingue.
Vous parliez de l'Angleterre, en fait, les Anglais ont complètement redécouvert leur patrimoine gastronomique.
Ouais.
Il y a 20 ans, on rigolait quand on parlait de fromage anglais, aujourd'hui, on est loin de rigoler.
Oui, parce que le Waterloo, le Stilton, le Stichelton, tout ça, ce sont des fromages, mais c'est extraordinaire. Donc il faut savoir que le monde entier bouge aujourd'hui, cherche, a envie de s'épanouir culturellement, et que nous on a un super patrimoine énorme, et il faut pas qu'on dorme, il faut qu'on continue à le gratter, il faut qu'on continue à l'explorer, continue à le vivre tout simplement, juste le vivre. Il n'y a pas besoin forcément de le réinventer, juste de le réexplorer je pense par contre.
On a un peu l'habitude de le prendre pour acquis, ce patrimoine en fait, il est sous nos yeux et du coup il est là.
Il est acquis, oui et non, enfin je pense que... Moi, je serais fervent qu'à l'école, à partir de l'âge de 6 ans, on redonne des cours de cuisine, on fasse visiter des fermes à des enfants. Il y a des pays, dans le Nord, au Danemark ou même en Suède, où on donne des cours de cuisine aux filles et aux garçons pour qu'ils apprennent à se cuire un œuf. Moi, je serais curieux aujourd'hui en France, si on donnait un œuf à cuire à un gamin à l'âge de 10 ans, on serait peut-être un petit peu surpris. Alors, c'est pas méchant, hein, faut pas se vexer, mais je pense que ça devrait faire partie du curriculum en France, apprendre aux enfants à vivre, en fait, et vivre notre culture, notre patrimoine.
Elle a quel goût, cette France, pour vous ?
C'est un pays merveilleux, quand même. Il faut vraiment qu'on se rende compte des choses. On a beaucoup de chances de vivre dans un pays où... on est super protégé, on a une super richesse au niveau du patrimoine, et les produits sont extraordinaires, le paysage est extraordinaire, tout est vraiment extraordinaire. Mmh. J'ai vu qu'à Londres, c'est un pays extraordinaire, mais ils savent qu'ils n'ont pas tout, et ils bossent très dur dessus. En France, des fois, j'ai l'impression qu'on a l'impression d'avoir tout, et on oublie de bosser un petit peu.
Votre femme est coréenne.
Oui.
Le rapport, justement, de la Corée aux produits, à la nature, comment vous vivez ça ?
Alors en Corée, moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis sur la petite île de Jeju. J'ai vu une évolution depuis 15 ans, mais c'était une petite île très rurale à l'époque. Ça se transforme en une île un petit peu... Il y a un peu trop de tourisme, un peu trop de Chinois dernièrement. Mais il y a encore ce rapport à la terre quelque part. Il y a encore... on voit encore les mémés dans les rues qui ramassent des herbes, etc., qui les revendent sur les marchés. Il y a ce rapport à la pêche, aux produits. Moi, j'adore. Je suis très fan.
Alors, c'est une tradition dans le goût du monde. Nous demandons toujours à nos invités de partager avec nous un ingrédient et un ustensile. Alors, si ce devait être l'ingrédient, peut-être, pour commencer, vous choisissez donc l'ingrédient ou l'ustensile en premier.
Ah, l'ingrédient. On va dire la côte de blette, histoire de faire rigoler tout le monde. Je suis le plus gros consommateur de blette du monde. Et un ustensile. La blette, je vais revenir parce que c'est super versatile. C'est la viande, mais c'est aussi le légume, c'est le végétal, ça peut être un gratin, ça peut aller dans un pâté, une terrine. On peut faire plein de choses avec. On peut faire une raviole, on peut faire plein de trucs. C'est génial. Super pratique. Le vrai couteau suisse.
Un couteau suisse, alors, du coup, comme ustensile?
Non, un couteau pliant. Ça se met dans la poche, on peut se balader avec, on peut faire la cuisine. C'est le compagnon. Quand on a vécu à la campagne, c'est quelque chose d'essentiel. On part jamais, qu'on soit garçon et qu'on soit fille, on part jamais nulle part sans son compagnon dans la poche. Ça peut servir.
Ça sent petit
toujours,
couteau.
Toujours.
Vous l'avez, là?
On est en ville, c'est compliqué.
Ah, les petits couteaux de poche.
Normalement, je l'ai. Mais dernièrement, j'ai troqué le mien avec un couteau de chez Roland Lanier.
J'ai vu qu'il y a une coutellerie, d'ailleurs, dans votre rue.
Ouais, très
de
content.
L'autre côté, ça peut être bien aussi si
c'est
vous étendez
mètres.
Votre village.
Ça va, ça mais j'étais très heureux quand ils sont venus s'installer, j'étais très heureux.
Il faut la boucherie, la boulangerie, la coutellerie.
J'aimerais faire une cantine aussi.
Ah, c'est une cantine, ce serait bien.
Une cantine.
Bon.
Juste.
Je viens travailler avec vous alors.
Purée saucisse, tout ça.
Purée saucisse, très bien. Ah oui, mais la saucisse au kimchi. Le goût du monde se refait. Merci beaucoup, Antonin
Merci.
Bonnet. Merci d'avoir passé ce moment avec nous pour ce partage et cette transmission annoncée. Kinsou est situé dans le 6e arrondissement de Paris, rue de l'Abbé Grégoire. Et la boucherie Grégoire, à quelques mètres donc. En cuisine, Sophie, Clémence, Morgane. À la boucherie, une belle équipe. Vous trouverez sur la page du goût du monde toutes les coordonnées pour les suivre, y compris sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Cécile Bonissi pour la réalisation de cette émission. Merci à tous d'être gourmands et des fidèles du goût du monde. Que vous pouvez réécouter, partager et aimez à partir de votre application de podcast préférée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Restez curieux.
Tête de cochon, marinée, vin rouge, Porto. Cuit toute la nuit à 100 degrés. On réassaisonne tout à la main. Et après, on prend la cuisson, on la réduit. Pas de gélatine rajoutée. Beaucoup de persil et on moule.
Oh là là, mais c'est bonheur, ce genre d'heure le matin.